s'il est et 4. Vous avez des feuilles avec la leçon, bonjour, sur les deux chaises de chaque côté. Ceux qui veulent aller à la prière des hommes, en principe, ça se passe ici. En principe aussi, le cours pour les nouveaux croyants se passe là. Le cours sur les disciplines spirituelles avec Alexandre sur ma gauche. Bonjour, Mme Prévost. François, est-ce que l'enregistrement est parti? OK. Alors, on fait la leçon 4 du cours « L'Esprit Saint et vous », questions pratiques, et puis on va aller dans un mot de prière. Père éternel, je viens devant toi ce matin, Seigneur, en te demandant de me remplir de ton esprit, Seigneur. J'ai besoin que tu fortifies mon cœur en toi. J'ai besoin, Seigneur, que tu fortifies ma foi afin que je sois rempli de conviction que ton esprit peut faire une œuvre parmi nous, Seigneur. Quel passage important, Seigneur, c'est tellement court et en même temps la question qui est soulevée est tellement importante. Je veux te demander de nous aider à comprendre ces choses, Seigneur. À les comprendre en Église, afin qu'on puisse les vivre ensemble et être remplis de ton esprit, conduits par ton esprit. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen. Amen. Ça a bien été la semaine dernière avec Michel. Michel, il me dit qu'il y a eu un mauvais impact sur le groupe. L'assistance a baissé. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Thessaloniciens 5. Oh, oui, c'est ça, il est un peu plus grand. Merci, Paul, de me rappeler ma grandeur. Michel est plus grand que moi. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 22. C'est un texte qui n'est pas simple, parce qu'il est trop simple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Paul n'en dit pas assez pour que ça rende le texte explicite. Puis pourtant, ce qui est mentionné dans le verset 19, boy, ça fait frémir un peu. Tu dis, je ne voudrais surtout pas faire ça. N'est-ce pas? Au verset 19, Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Si c'est possible d'éteindre l'esprit, d'éteindre l'œuvre de l'esprit dans nos vies, boy, moi je veux savoir c'est quoi cette affaire-là. Et je veux pas que ça se produise dans ma vie, je veux pas que ça se produise dans l'Église. Mais Paul, il nous dit très très peu de choses. Une première question qu'on peut se poser, si vous regardez à la page 2 des notes, est-ce qu'il s'agit de la même directive que dans Éphésiens 4:30? Et je vous ai mis les versets 29 et 30 d'Éphésiens dans vos notes à la page 2. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Puis le verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Éteindre l'esprit, puis attrister l'esprit, est-ce que ce serait la même chose? Est-ce que Paul serait juste en train d'utiliser un langage différent pour parler d'une même réalité? Est-ce qu'on doit lire, alors je vous donne juste les questions là, qui viennent lorsqu'on veut essayer de comprendre ce passage-là, est-ce qu'on doit lire les versets 19 à 22 ensemble? Ou est-ce qu'on doit juste prendre le verset 19? Verset 19, ça dit « N'éteignez pas l'esprit » dans 1 Thessaloniciens 5. « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Est-ce que ça, c'est un bloc? Est-ce que éteindre l'esprit, ça serait relié avec notre attitude à l'égard des prophéties? Ou est-ce que Paul est juste en train de lancer un paquet de directives? D'accord? Si on remonte un tout petit peu plus haut, « Soyez joyeux ». Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Est-ce qu'on est dans un enseignement de Michel Famy en bullet point form de Paul, ou est-ce qu'on est dans un... c'est soutenu? Ça, c'est des questions importantes. Et puis c'est ça, comme je l'ai mentionné, est-ce que, Est-ce qu'on a la même idée ici que celle qui est dans Éphésiens, où on peut attrister l'esprit, éteindre l'esprit? Mais une question à se poser, c'est éteindre l'esprit, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire? Parce que le mot grec qui est là, c'est vraiment en grec l'idée d'éteindre un feu. D'accord? C'est jeter de l'eau sur du feu pour éteindre un feu. Est-ce que vraiment, moi, j'ai la possibilité d'éteindre l'Esprit Saint de Dieu? Ou est-ce qu'on est en train de parler de son œuvre au milieu de nous? Puis on pourrait avoir un impact sur son œuvre au milieu de nous, ralentir son œuvre au milieu de nous. Est-ce que Paul est en train de parler en image ici? Alors, très rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu comment ce passage-là a été interprété à différents moments de l'histoire de l'Église. C'est un peu la démarche qu'on va faire tout le long. Et donc, on va aller voir comment ce texte-là a été interprété à travers l'histoire de l'Église, comment est-ce qu'il est interprété parfois aujourd'hui. On va regarder un peu le passage, on va aller un petit peu plus largement dans 1 Thessaloniciens pour voir si on a des indices, pour essayer de comprendre de quoi il est question. Puis après ça, on va chercher juste des applications. Comment est-ce qu'on applique ça dans la vie de l'Église? Jean Calvin. En fait, je vous mentionne tout de suite, il y a des textes dans les Écritures qui, à travers l'histoire, ont suscité plein d'écritures, plein de commentaires. Les enseignants se sont penchés là-dessus. C'est pas un de ces passages-là. Surprenamment, c'est pas un passage où les enseignants, à travers l'histoire, les docteurs, ont beaucoup écrit. Il y a d'autres passages qui ont fait couler beaucoup d'encre, pas celui-là. Et un des premiers commentaires sérieux, puis vraiment arrêtés qu'on trouve dans l'histoire de l'Église, nous vient de Jean Calvin. Jean Calvin, c'est la Réforme. C'est déjà, si vous connaissez un petit peu votre histoire de l'Église, là, c'est déjà très, très loin. Alors, chez les pères de l'Église, dans les 3-4 premiers siècles, on n'a pas grand-chose sur ce passage comme commentaire. Jean Calvin voyait ça premièrement comme un ensemble, c'est-à-dire les versets 19 à 22, il les voyait ensemble dans un bloc. Mais il voyait aussi l'idée plus générale, pas juste appliquée par rapport aux prophéties. Et voici comment il le dit. Pour Calvin, éteindre l'esprit, ça revient à mépriser la grâce de Dieu qui est à l'œuvre dans notre vie. Dieu est en train de faire une œuvre dans notre vie à travers l'Esprit Saint, dans quelque domaine que ce soit. D'accord? Calvin l'appliquait n'importe où. Ça veut dire, je suis en train de prendre du temps avec Simon. Simon est en train de me partager quelque chose, puis à travers ça, Dieu parle à mon cœur, puis je refuse ça. Je refuse d'écouter ce que Dieu est en train de me dire à travers le partage de Simon. Jean Calvin dirait, ah, ça c'est éteindre l'esprit. C'est refuser l'œuvre de grâce que Dieu est en train de faire dans notre vie, certainement à travers les prophéties, mais partout dans l'ensemble de notre vie. C'est chercher à éteindre, étouffer quelque chose que Dieu est en train de faire dans notre vie. C'est comme ça que Calvin comprenait ça. Et pour Calvin, essentiellement, la prophétie, c'était, puisqu'il aimait les deux ensemble, pour lui, la prophétie, essentiellement, c'était la prédication de la parole de Dieu. Puisque la Bible nous a été entièrement donnée, ceux qui exposent la parole de Dieu, dans la compréhension de Calvin, sont en train de faire connaître au peuple de Dieu la volonté de Dieu. Ils sont en train d'interpréter les Écritures, les appliquer pour notre temps. Et s'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, lorsqu'ils sont en train de faire ça, ils sont en train de faire une œuvre prophétique. D'accord? Comme les prophètes dans l'Ancien Testament, c'était un des volets définitivement du travail du prophète dans l'Ancien Testament, d'annoncer la parole de Dieu puis de l'appliquer, d'exhorter le peuple de Dieu. Alors Calvin voyait essentiellement le travail de l'enseignement, de la prédication comme étant l'œuvre prophétique pour notre époque. Je ne vous dis pas que je limiterais ça à ça. Je suis en train de vous partager ce que Calvin croyait. Plus près de nous, en fait, un contemporain, Martin Lloyd-Jones, faisait une nuance justement entre Éphésiens 4:30, puis on va revenir plus tard, là, on va avoir un dimanche matin sur Éphésiens 4:30, mais « N'attristez pas le Saint-Esprit », il faisait une nuance entre « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu » et « N'éteignez pas l'Esprit ». Et voici ce qu'il faisait. Si vous voulez tourner avec moi dans Éphésiens 4, on va juste regarder les deux passages rapidement en parallèle. Il y a des notes sur les deux chaises à ma droite et à ma gauche, là, près des consoles vidéo et audio. Martin Lloyd-Jones comprend les deux passages en disant, dans le cas d'un Thessaloniciens 5, Éteindre l'esprit, c'est une attitude ou un comportement qu'on aurait à l'égard de l'œuvre de l'Esprit-Saint, mais dans une situation de congrégation, d'assemblée. Puisqu'il fait, il voit le lien avec les prophéties étaient données en assemblée. Il dit, c'est une attitude qu'une église va avoir à l'égard de l'œuvre de l'Esprit lorsqu'on est en assemblée. Et dans le cas d'Éphésiens 4:30, il parle plutôt d'une attitude individuelle et personnelle qui va s'appliquer surtout dans le domaine moral. Alors, si on regarde Éphésiens 4, versets 29, 30, 31, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et donc Martin Lloyd-Jones voyait l'idée d'attrister l'Esprit-Saint comme une attitude qu'on a dans notre moralité. Est-ce que je suis en train de bien me comporter ou si je suis en train de tolérer un péché, de l'amertume, des choses comme ça dans ma vie? Et en faisant ça, j'attristerai l'esprit. On va revenir là, sur ce passage-là plus tard. Mais Martin Lloyd-Jones voit une distinction entre les deux. Dans un cas, il y a une œuvre de l'esprit au milieu de la congrégation, 1 Thessaloniciens 5. L'Esprit de Dieu est en train de parler à des individus. Si c'était comme Calvin le comprenait, à travers la prédication, Dieu est en train de parler. Et puis, je refuse cette œuvre-là. Je suis en train d'éteindre l'esprit. D'accord? Dans le cas d'attrister, je tolère des choses dans ma vie qui ne sont pas conformes avec l'œuvre de sanctification que l'Esprit-Saint est en train de faire dans ma vie. Je laisse de l'amertume se placer, je pêche, j'ai des mauvais comportements moraux et j'attriste l'Esprit-Saint qui est en moi parce qu'il est témoin, il est un témoin obligé. N'est-ce pas? L'Esprit-Saint nous a été donné au moment de la conversion. Et si je pêche, si j'offense Dieu, j'ai un témoin obligé dans mon cœur qui est en train d'assister à ça, l'Esprit-Saint qui habite en moi. Est-ce que vous voyez la nuance entre les deux? Oui? Oui? Non? Des questions? Oui? Oui, en fait. OK, je vais répondre à votre question. Martin Lloyd-Jones, lorsqu'il dit que c'est dans la communauté, il n'est pas en train de dire que ce n'est pas individuellement. C'est, par exemple, une application qu'il ferait. Le prédicateur est en train de prêcher en avant. Puis, Dieu est en train de faire une application dans le cœur de Sylvain, dans sa vie. Il y a quelque chose où Sylvain dit, « Wow, c'est ça que je suis en train de vivre. Dieu est en train de me parler à moi, là. » Donc, c'est individuel, d'accord? Mais ça se passe au moment où l'Esprit est à l'œuvre dans l'Assemblée. Qui ici a fait le cours avec moi sur l'adoration que je viens de terminer? Une des choses qu'on a vues, c'est toute l'idée que l'Esprit est particulièrement présent, particulièrement à l'œuvre. Il y a une gloire particulière qui est offerte à Dieu quand l'Assemblée est réunie. Il y avait cette idée-là dans l'Ancien Testament, Dieu habite au milieu des louanges de son peuple, mais il y a cette idée-là qui revient aussi dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus dit « là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux ». Et donc, à quelques reprises dans le Nouveau Testament, il y a cette idée que Dieu fait une œuvre particulière lorsque l'Assemblée est réunie. Et cette idée-là est présente certainement parce que la plus belle œuvre, la plus belle manifestation de la gloire de Dieu sur la terre actuellement, c'est la vie de l'Église. C'est quelque chose qu'on perd de vue. On a l'impression que la plus belle manifestation de la gloire de Dieu, c'est mon comportement à moi au travail. C'est certainement important. Je suis chrétien, comment je me comporte au travail, comment je me comporte, comment moi comme individu, me comporte partout. Ça, c'est certainement important. Mais il y a cette idée dans le Nouveau Testament que lorsque l'Assemblée est réunie, et puis un inconverti entre au milieu de l'Assemblée, que ce soit dans les petits groupes, dans l'Assemblée du dimanche, tout ça, et voit l'œuvre, voit l'amour qu'il y a là, voit le pardon qu'il y a là, voit la grâce qu'il y a là, voit son cœur même dévoilé. Oups, il y a une manifestation particulière de Dieu qui est présente à ce moment-là. Et donc, Martin Lloyd-Jones attribuerait 1 Thessaloniciens 5 à une œuvre de l'Esprit lorsqu'on est ensemble réunis. Ça pourrait être dans un petit groupe, ça pourrait être ici. Mais lorsque des chrétiens sont réunis ensemble, c'est là qu'il y aurait tendance à l'appliquer. Maintenant, si on éteint l'esprit, ça pourrait être une attitude générale dans l'Église. D'accord? Il y a une œuvre de l'esprit dans l'Église, puis il y a 3-4 individus qui parlent leur fermeture, tout ça, font opposition à l'œuvre que l'Esprit-Saint est en train de faire, puis ça entraîne quelque chose. C'est un peu comme ça que Martin Lloyd-Jones serait en train d'interpréter ça. Il dirait, ne cassez pas ce que Dieu est en train d'essayer de faire au milieu de vous. Pour un Thessalonicien 5, il y a un élément individuel. Chaque individu choisit s'il va collaborer avec l'Esprit-Saint dans ce qu'il est en train d'accomplir dans l'Église ou non. Est-ce que c'est clair la nuance? Pas tout à fait? Je vais prendre votre commentaire, puis je comprends où vous en allez. Je vais prendre votre commentaire, puis je vais poser la question. Est-ce que je pourrais prendre ces deux textes-là, puis les mettre sur une échelle de graduation, d'accord? Ce que j'ai déjà fait moi-même. Les mettre sur une échelle de graduation, puis je dis, bon, mais voici. On peut être rempli de l'esprit, mais on peut pécher, puis attrister l'esprit, puis si on continue à pécher, on peut éteindre l'esprit. Est-ce que 1 Thessaloniciens 5:19 semble parler d'une continuité d'une même chose. Ma compréhension à moi en étudiant le texte, non. C'est pas une échelle de rapport individuel avec l'Esprit-Saint. Je peux être rempli de l'Esprit, puis là, si je pêche un peu, ben fait que je me tourne vers Éphésiens 4. Ah, ça, c'est la réalité dans ma vie. J'attriste l'Esprit. Puis si je continue à pêcher, je vais me retrouver dans 1 Thessaloniciens 5, puis là, j'ai éteint l'Esprit. Individuellement, je l'ai éteint. Il est éteint, il va falloir le rallumer. D'accord? Et puis, on voit souvent le lien. Là. Souvent, ça va être mentionné. Question, commentaire? Je pense pas que ça a été beaucoup. Ça aurait pu. Ouais, il y aurait une certaine logique, mais dans le survol de ce que j'ai lu, puis je veux dire, si il y en a qui croient définitivement à la perte du salut. S'ils avaient vu un texte à récupérer là pour appuyer ce qu'ils croient, ils auraient pu le prendre. Non, le texte n'est pas utilisé pour ça. Oui. Oui. Ça aurait pu. Ça aurait pu être utilisé pour ça. Alors, est-ce que ce texte-là peut être utilisé comme une échelle pour dire « tu continues à attrister, éventuellement tu vas l'éteindre » Je ne pense pas que dans le contexte d'un Thessaloniciens 5, je peux faire ça avec le texte. Oui, Marcel. Oui. T'as l'Esprit Saint qui t'habite. Merci Marcel. Fait que Marcel nous a juste partagé l'idée que si on croit à la perte du salut puis qu'on voit quelqu'un qui s'éloigne du Seigneur complètement, qui semble s'éloigner complètement du Seigneur, arrête d'aller à l'église, tout ça, bien on pourrait croire qu'il a perdu son salut, mais il nous partageait le témoignage d'un homme qui s'est éloigné du Seigneur pendant 10 ans puis qui sentait toujours l'œuvre de l'Esprit qui lui disait qu'il devait revenir, qu'il devait revenir au Seigneur, contrairement à ce qu'un non-chrétien peut vivre, où c'est plutôt la crainte d'être poigné, d'être attrapé pour son péché qu'il va vivre. Alors, on revient dans notre passage. Merci, Marcel. On revient dans notre passage d'un Thessaloniciens 5. Wayne Grudem, je vais juste vous le mentionner aussi, va voir dans ce passage-là, parce qu'il associe les versets 19, 20, 21 et 22 ensemble, il va voir dans ça l'idée que, là je vais juste faire un commentaire sur la prophétie, puis j'y reviens après, l'idée qu'il ne s'agit pas de prophétie comme dans l'Ancien Testament, puisqu'il s'agit de prophétie, une œuvre de l'Esprit qui serait faite à travers des prophéties dans l'Église, mais des prophéties qu'on doit examiner, qu'on doit évaluer, et donc ça ne pourrait pas être les mêmes prophéties que dans l'Ancien Testament. Alors, juste quelques questions importantes là, qui ressortent à la lumière de ce qu'on a regardé. Est-ce que le fait d'éteindre l'esprit est lié aux prophéties? Qu'est-ce que ça veut dire éteindre l'esprit? Si le passage est lié à la prophétie, de quelle sorte de prophétie est-ce qu'on parle? Et est-ce que ce serait essentiellement la prédication comme Calvin le voyait? Juste regarder le passage ensemble vite. J'y viens, je vais donner une définition, puis si ça ne répond pas, vous pourrez me la demander. Moi, j'ai tendance à croire qu'on doit prendre le texte ensemble, les versets 19, 20, 21, 22, parce qu'il y a l'idée, premièrement, n'éteignez pas l'esprit, qui est une action négative à l'égard de l'Esprit de Dieu, puis tout de suite après, ne méprisez pas les prophéties. Si les prophéties ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, ça serait comme bizarre. De toute façon, on devrait peut-être les mépriser si elles ne viennent pas de l'Esprit. Donc, ça doit être une œuvre de l'Esprit. Et il y a cette même idée négative-là qui dit, cette mise en garde deux fois, n'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Et généralement, dans l'histoire de l'Église, les commentateurs ont vu ça dans un bloc. Autrement, juste n'éteignez pas l'Esprit, on n'a aucun indice de ce que Paul est en train de dire. Et peut-être que ça serait juste comme une échelle. Hein? Soyez remplis de l'Esprit, n'attristez pas l'Esprit, n'éteignez pas l'Esprit. Ça me semble vraiment mince pour essayer de comprendre le passage si c'était ça ici. Et donc, j'ai tendance à croire que 19, 20, 21, 22 doivent être interprétés ensemble pour être bien compris. Et généralement, dans l'histoire de l'Église, c'est comme ça qu'on l'a pris aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire éteindre l'Esprit? C'est clair que c'est une métaphore. Paul est en train de parler avec des images ici, parce que je l'ai dit tout à l'heure, le terme grec ici, c'est vraiment éteindre. C'est le terme qu'on utilisait pour éteindre un feu, d'accord? Et donc, l'idée qu'on pourrait éteindre littéralement l'Esprit de Dieu, il faut que ce soit une métaphore. Il faut que ce soit lié à son œuvre, l'œuvre qu'il est en train d'essayer de faire. Dieu est Dieu, et moi, je n'ai pas d'impact véritable sur l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est bien au-dessus d'Yannick ou de l'Église de l'Espoir. Et donc, pas l'Église de l'Espoir ici ne va pas l'éteindre. D'accord? De la même manière qu'on ne pourrait pas faire mal à Dieu littéralement. Donc, il est en train d'utiliser une métaphore certainement liée à l'œuvre que Dieu est en train de faire dans l'Église, au milieu de nous. Paul met en garde les chrétiens contre le danger d'éteindre, on pourrait le dire comme ça, un feu quelconque, une œuvre de l'Esprit. Une œuvre que l'Esprit est en train de faire au milieu de nous. Maintenant, Paul ne nous dit pas c'est quoi. Comment, tu as une mise en garde, puis il ne nous dit pas comment tu pourrais éteindre l'Esprit si ce n'est pas lié au verset suivant. Si c'est lié au verset suivant, oups, là, je commence à avoir des indices. Comment est-ce qu'on pourrait éteindre l'Esprit? Bien, en méprisant les prophéties. Donc, si l'Esprit est derrière les prophéties qui sont faites au milieu de nous, si on refuse, on méprise les prophéties, on pourrait éteindre l'Esprit. Et donc, j'ai tendance à croire vraiment qu'il y a une relation avec le passage qui suit. Si c'est le cas, il y a une question importante, c'est celle que Mme Paradis vient de poser. C'est quoi la prophétie? De quoi il s'agit ici? Est-ce que... Pardon? Oui, absolument, absolument. On va prendre un bon 15 minutes sur ça. Est-ce que les prophéties ici, ça serait par exemple les écrits de Paul? D'accord, cette lettre-là, lorsque Paul a écrit la lettre de 1 Thessalonicien, elle a été portée aux Thessaloniciens, et puis Paul donne dans 1 Thessalonicien la directive. Il demande à ce que sa lettre soit lue à toute l'assemblée. Paul était un apôtre, inspiré de Dieu. Est-ce que les prophéties qu'on pourrait mépriser, c'est ce texte-là? Lorsque le texte était lu, éteignez pas, méprisez pas les prophéties, éteignez pas l'esprit, écoutez là, ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que ça pourrait être ça? Peut-être? Non? Amen. Excellent. Excellent. Bon commentaire. Alors, est-ce que ça aurait pu être ça? Probablement pas. Maintenant, on va voir d'autres indices aussi qui nous amènent à dire non. Est-ce que ça pourrait être les applications que les enseignants, les pasteurs font au moment où ils lisent la lettre, par exemple. D'accord? Quand moi je prêche le dimanche matin, quand quelqu'un d'autre prêche le dimanche matin, même ce qu'on est en train de faire dans le cours ici, en réalité, on est en train de lire ensemble une lettre de Paul, puis on est en train de réfléchir, puis de chercher comment elle va s'appliquer dans nos vies. Est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce que ça pourrait être au moment où les anciens à Thessalonique ont lu la lettre publiquement, ont commenté, puis ils ont partagé en assemblée, « Ouais, c'est vrai, Paul nous dit de faire attention à ça, puis ça. » Et là, l'Esprit est en train de faire une œuvre. Peut-être que ce serait ça. Est-ce que ça pourrait être plutôt de cet ordre-là? Et ça serait une œuvre prophétique que Dieu serait en train de faire, serait en train de parler au cœur. Peut-être que c'est une possibilité. Est-ce qu'il s'agirait de révélations spontanées donné par l'Esprit de Dieu à des membres de la congrégation qui dévoilent des cœurs. Dans 1 Corinthiens 14, vous vous rappelez du texte d'1 Corinthiens 14, où il y a cette idée que la prophétie serait peut-être une intervention inspirée par l'Esprit de Dieu, puis à travers ça, Dieu parle à un cœur. On a tendance à voir ça comme quelque chose un peu de mystique. Là. Tu sais, je me lève, puis je m'excuse, je vais faire quelque chose, je vais avoir de l'air cynique ou sarcastique, d'accord? Mais c'est juste parce que c'est quand même l'image parodie un peu qu'on a. Il y a quelqu'un dans cette salle qui vit ceci, d'accord? C'est comme ça qu'on a tendance à le voir. Mais est-ce que ça pourrait être plus simple que ça? Est-ce que ça pourrait être, tantôt je parlais de Simon, Simon vient me voir, me partage quelque chose qu'il a vu dans les Écritures, puis comment Dieu lui a parlé, puis pouf, Dieu est en train de parler à mon cœur. Et donc, il est inspiré par l'Esprit de Dieu, mais il ne dit pas « Ouh, l'Esprit de Dieu est sur moi ». Yannick, voici. D'accord? On peut le voir vraiment très, très stylisé, là, mais ça peut peut-être être plus simple. Est-ce que c'est de ça dont il est question? Une révélation spontanée donnée par l'Esprit de Dieu à des membres de la congrégation concernant des gens, des auditeurs dans la salle. 1 Corinthiens 14 suggère quelque chose comme ça. Il ne nous dit pas vraiment comment ça se passe. D'accord? C'est pas nécessairement théâtral. On a des indices dans 1 Thessaloniciens 5 pour essayer de comprendre c'est quoi la prophétie ou ce que c'est pas. Alors, tournez avec moi, là, j'ai donné quelques références. 1 Thessaloniciens 1, 5. On va aller éliminer des possibilités, d'accord, pour essayer de comprendre de quelle prophétie il est question ici. Là, suivez-moi, vous devez mettre deux passages en relation dans votre pensée. 1 Thessaloniciens 1, 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec une puissance et avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Paul est en train de parler de la parole qu'il a reçue, de l'évangile qu'il a reçu, qu'il a donné. Il dit qu'elle a été donnée et apportée avec l'Esprit Saint. Allez regarder 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Alors là, Paul est en train de parler du message, de l'évangile. Il dit, ce message-là, on l'a reçu de Dieu. Ce message-là, c'est la parole de Dieu et on vous l'a apporté. Dans ma compréhension de la prophétie dans l'Ancien Testament, ça ressemble pas mal à de la prophétie, ça. Mais Paul ne va jamais qualifier ça. Ce qu'il a reçu comme parole du Seigneur, il ne va jamais utiliser le terme prophétie dans 1 Thessaloniciens 5. OK? C'est la parole du Seigneur qui a reçu, je vous relis, 1 Thessaloniciens 2:13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Dans ma compréhension de la prophétie dans l'Ancien Testament, ça ressemble pas mal à de la prophétie, ça. Il a reçu une parole du Seigneur, puis il la donne, mais Paul ne l'appelle jamais prophétie. Alors, lorsque j'arrive à la fin d'un Thessalonicien, dans 1 Thessaloniciens 5, lorsqu'il parle des prophéties ici, est-ce qu'il est en train de parler de la même chose? Est-ce qu'il est en train de parler de sa lettre, par exemple? On a dit non tout à l'heure parce qu'il fallait l'évaluer. On a d'autres indices qu'il n'est pas en train de parler de toutes les Écritures, il serait en train de parler d'autres sortes de prophéties. D'accord? Parce qu'ici, il nous parle du message qu'il a reçu. Il ne l'appelle pas prophétie, il l'appelle juste la parole du Seigneur qu'on a reçue. Puis il dit littéralement, c'est une parole qui vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous l'a donné, ce message-là. 1 Thessaloniciens 5:14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le... Oups, c'est pas ça que je cherche du tout. C'est-tu deux? J'ai mal noté ma référence. Désolé. C'est avançons. OK. C'est, vous pouvez juste le corriger dans les notes, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 4, puis là, c'est dépendamment de l'édition de la Bible que vous avez, 14 ou 15. Moi, c'est 15 que je cherche. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Encore une fois, Paul est en train d'enseigner, puis il dit, c'est une parole du Seigneur qui nous a été donnée. Et il ne l'appelle pas prophétie. D'accord? Il aurait pu le faire, mais il est en train de dire, tout ceci, on l'a reçu de Dieu, puis jamais il va utiliser le terme prophétie pour parler de ça. Alors, lorsqu'on arrive à la fin de 1 Thessaloniciens 5 au verset 20, il dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » C'est difficile de croire que Paul serait en train de parler ici des lettres qu'il écrivait, des enseignements qu'il écrivait, pour la même raison que Claude a mentionné tout à l'heure. Ça serait difficile d'imaginer Paul en train de dire « Voici, on vous a apporté la parole de Dieu, l'Évangile, examinez et retenez ce qui est bon là-dedans. » Non, pas vraiment. Non, c'est la parole du Seigneur, vous obéissez à la parole du Seigneur. Et donc, la prophétie dont il est question dans 1 Thessaloniciens 5:19, c'est pas les lettres de Paul, c'est pas l'ensemble des écrits, d'accord? C'est pas l'Évangile tel qu'il a été transmis à ce moment-là. Ça semble en effet être quelque chose qui était comme plus petit que la prophétie qu'on voit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand le prophète ouvrait la bouche, si sa prophétie s'accomplissait, tu voyais que c'est un prophète, si elle ne s'accomplissait pas, tu l'éliminais. D'accord? Tu sortais les roches, puis tu t'arrangeais pour qu'il n'en fasse plus de prophétie. Dans le Nouveau Testament, il semble que les gars avaient le droit à une deuxième chance. D'accord? Et donc, ce n'est pas la même chose qui est question ici. Il semble vraiment y avoir une prophétie qui est quelque chose de plus simple, quelque chose à examiner, quelque chose qui demande à être observé, à être évalué. Qu'est-ce que c'est la prophétie? Au milieu de la page 4, vous avez un caractère gras. Qu'est-ce que cette prophétie? En gros, d'accord, on n'est pas en train de faire un cours sur les dons spirituels. Et je commence à me dire qu'il va falloir le faire. Avais-tu une question, Sylvain, avant qu'on regarde la définition? Oui, j'ai pas vu. OK, tu veux dire même dans l'Ancien et dans le Nouveau? Que je pense que je comprends ta question. Vous voulez ajouter une question par rapport à ça? Oui. Oui, dans Corinthiens. Fait que la question de Sylvain, c'est est-ce qu'il pourrait avoir comme différents niveaux de prophétie? Puis là, si je comprends bien ton idée, c'est que dans l'Ancien Testament, souvent ce qu'on lit dans les prophéties, il y avait de la doctrine, ça nous parlait de Dieu, ça nous parlait de destinée éternelle, ça nous parlait de destinée d'Israël. Puis là, si on prend Agabus dans le Nouveau Testament, bien, c'est comme une information qui est pertinente, en fin de compte, pour Paul, dans sa vie à lui, dans son agenda à lui. C'est pas nécessairement pour l'ensemble de l'Église. Généralement, la manière qu'on va essayer de comprendre la nuance, parce que c'est clair qu'il y a des nuances. Dans l'Ancien Testament, ça aurait été totalement inacceptable que les anciens du peuple voyaient un prophète arriver, disent « Bon, ben là, on va l'écouter, puis on va évaluer ce qui est juste puis ce qui est faux dans ce qu'il dit. » Non, non, non. On va évaluer si c'est un prophète de Dieu. Si c'est un prophète de Dieu, puis on ne l'écoute pas, on est rebelle. Et si on est rebelle, on va faire comme nos pères ont fait avant, on va le mettre à mort. D'accord? Mais si c'est une fausse prophétie, c'est un faux prophète. Puis aussi, on va le mettre à mort. D'accord? Et donc, c'est clair qu'il y a une distinction. C'est clair qu'il y a une distinction. En général, ce qu'on va dire, c'est il y avait la prophétie dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, dans un sens, tous les livres inspirés, c'est aussi une œuvre prophétique. On a carrément des passages comme dans l'Apocalypse où le Seigneur parle. Tu es vraiment dans la prophétie de l'Ancien Testament, où tu as les paroles du Seigneur que tu écris littéralement. Dans les évangiles, une partie des évangiles, c'est carrément ça aussi. Et donc, il y a un lien là. Mais en même temps, il semble y avoir cette espèce de pratique au milieu de l'Église où des gens vont apporter quelque chose, et ça, il faut examiner ça. D'accord? On ne va pas parler de niveau de prophétie, on va parler de deux choses complètement différentes en général. Et ça, tout le monde est à peu près d'accord pour dire ça. C'est vraiment deux choses différentes. La question, c'est quoi ça ici dans le Nouveau Testament? De quoi on parle lorsqu'on parle de prophétie dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'est un individu qui se lève et qui va annoncer le futur comme Agabus? Est-ce que c'est un individu qui va prêcher la parole de Dieu comme Jean Calvin le concevait? Il est en train d'expliquer les vrais textes prophétiques, les Écritures. Puis lorsqu'il le fait rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit est en train d'appliquer sa parole dans nos cœurs, puis est en train de dévoiler nos cœurs. Est-ce que ça serait ça? Mon impression à moi, c'est que c'est un peu tout ça, lorsque je regarde le Nouveau Testament. Par exemple, dans Actes 2, il y a des hommes, des femmes qui, remplis de l'Esprit, commencent à parler des gloires de Dieu. D'accord? Dans 1 Corinthiens 14, 25, il y a des gens qui vont, soit en commentant les Écritures, soit en apportant une exhortation à l'Assemblée, vont dire quelque chose, puis il y a des gens dans l'assistance qui voient leur cœur, qui leur sont dévoilés, puis l'Esprit fait une œuvre envers eux. Donc, pour cette même raison-là, j'aurais tendance à être d'accord avec Calvin, puis dire que la prédication, lorsqu'elle est... Oui, je viens à toi, Susie. La prédication, lorsque le prédicateur est rempli de l'Esprit, hein, tout à l'heure, j'étais en train de réviser mes notes, j'ai terminé, puis j'ai dit au Seigneur, et je veux pas être prétentieux quand je dis ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait mes devoirs, c'est un beau texte que je m'avais prêché, je pense que j'ai écrit un bon sermon, puis il n'y a rien qui va se passer si ton Esprit n'est pas avec moi. Fait que j'ai besoin que tu me remplisses, j'ai besoin que tu fasses une œuvre, parce que ça ne vaut absolument rien si toi tu ne me précèdes pas, si tu ne m'accompagnes pas. Et donc, si le Seigneur répond à ma prière tout à l'heure, Dieu va travailler dans des cœurs, va travailler dans nos cœurs à travers ça. Oui, Suzy. Oui. Oui, tout à fait. Bien, Pierre aurait tendance à être assez d'accord avec toi, puisque c'était Joël qui disait vos fils et vos filles, puis mon esprit va être sur chacun d'entre eux. Et donc, l'idée, c'est que l'Esprit de Dieu habite en chacun d'entre nous. Fait, je pense que c'est définitivement pas exclu qu'à un moment ou à un autre, rempli de l'Esprit, on est en train de dire quelque chose à un frère, à une sœur ou à un inconverti, puis c'est une œuvre prophétique qui est en train de se passer là.
Et
Je vais juste répéter, je suis en train d'oublier de répéter ce que tu mentionnes pour l'enregistrement. Donc, Suzy fait la nuance entre l'Ancien Testament où l'Esprit venait sur des individus, pouvait être retiré d'individus aussi, il venait sur eux. Puis dans le Nouveau Testament, il est donné à chacun des croyants. Et donc, il y a une possibilité à ce moment-là qu'on intervienne et qu'il y ait une œuvre prophétique. C'est un peu dans ce sens-là ce que tu dis. Je pense qu'une différence majeure, c'est que dans l'Ancien Testament, le prophète pouvait dire « Ainsi parle l'Éternel ». Et si c'est « Ainsi parle l'Éternel », malheur à toi si tu t'opposes à ce que l'Éternel dit. Nous, aujourd'hui, nous disons « Ainsi parlait l'Éternel autrefois à travers les prophètes. Aujourd'hui, il a parlé à travers son Fils, d'accord, son Fils qui nous a été donné. Et ce qui avait à être écrit concernant l'œuvre de son Fils a été écrit. Ainsi a parlé l'Éternel dans les Saintes Écritures. » Et donc, je ne vais pas, et je pense que ça va dans le sens des exhortations, des mises en garde à examiner ce qui est apporté. J'ai la liberté d'examiner parce que personne ne peut dire aujourd'hui, ainsi parle l'Éternel. Ainsi a parlé l'Éternel. Moi, si je viens puis je dis, Karine, j'aimerais ça te partager quelque chose, je pense que ça s'applique dans ce que tu es en train de me parler. Puis tu regarderas ça, tu regarderas si Dieu n'est pas en train de t'exhorter toi à travers ce texte-là, parce qu'il y a quelque chose ici que tu es supposé faire, là. Bien, Karine est invitée à examiner ça devant le Seigneur. Oui. Oui, on devait en avoir peur. La question, Mme Piché, c'est qu'est-ce qu'on doit penser des églises qui ont aujourd'hui un prophète vivant aujourd'hui qui écrit des livres prétendument inspirés de l'Esprit de Dieu? L'Église, dans l'histoire, a conclu que ça, c'était les textes inspirés pour plusieurs bonnes raisons. Entre autres, ils se sont arrêtés à l'époque des apôtres et donc il fallait que les apôtres soient en accord avec ce qui était dit ici. Et donc, nous pensons que le canon des Écritures, la collection des livres bibliques, est fermé. D'accord? Et quelqu'un va arriver, et vous remarquerez qu'en général, les gens qui écrivent des livres comme ça, si on examine bien le contenu à une place ou une autre, ça contrevient aux Écritures. À une place ou une autre, ça va contrevenir aux Écritures. Et ça va être le cas avec les Mormons, par exemple. D'accord? Qui ont eu leur prophète qui écrit son livre, qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Oui? Oh, boy, aucune idée, Mme Paradis. Combien il y a de prophéties à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? J'ai aucune idée. Je ne pense pas même que quelqu'un serait capable de le dire, parce que si on ajoute tous les types, par exemple, lorsque Abraham va pour le sacrifice d'Isaac, c'est un geste, c'est un type, mais c'est une forme de prophétie qui est faite là. Puis là, on n'est même pas certain des fois si c'en est un ou c'en est pas un dans certains cas. Du tout. Non, ça n'existe pas. Alors, juste pour revenir donc sur l'idée qu'est-ce que c'est la prophétie, ma compréhension de la prophétie, c'est probablement lorsque l'Esprit Saint est en train de se servir de nous pour appliquer sa parole plus généralement dans la vie de quelqu'un d'autre. Je pense que ça va se produire lorsqu'on va être en grande assemblée, lorsque la prédication, je pense que ça peut se produire lorsqu'on est rassemblé en petit groupe et on ouvre les Écritures. C'est ce que j'ai tendance à comprendre comme étant la prophétie. Personnellement, je n'ai pas tendance à croire que tout ça, ça s'est arrêté lorsque le canon a été complété. D'accord? C'est l'interprétation qui était commune anciennement dans nos assemblées où on disait tout est complet, donc il n'y en a plus de prophétie, c'est arrêté là. Si on fait un cours sur les dons spirituels, on aura l'occasion d'aller voir pourquoi là, je ne pense pas que c'est le cas. Mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu continue à faire une œuvre de ce type-là, où il va parler à nos cœurs, et ça peut se faire à travers la louange tout à l'heure, lorsque quelqu'un va être en train de chanter des louanges, puis quelqu'un d'autre à côté s'arrête, puis il dit « Boy, c'est vrai, c'est ça que tu veux faire dans ma vie, Seigneur. » Ça peut se faire là, ça peut se faire en assemblée, ça peut se faire dans des exhortations. Mais je ne m'arrêterai pas sur le don de prophétie, par exemple, pas ce matin, juste parce que ce n'est pas le sujet. Je vais aller vers des applications. Parce que si on revient dans le passage d'un Thessaloniciens 5, versets 19, 20, 21, 22, Paul dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Alors d'une part, Paul nous donne la directive d'être ouvert à l'œuvre de l'esprit dans nos cœurs et tout spécialement dans la communion de l'Église. une première application pratique, c'est quelle est mon attitude lorsque je me rassemble avec les frères et sœurs? Est-ce que je suis là pour entendre ce que Dieu veut me dire? Est-ce que je suis là pour voir ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire au milieu de nous? Ça peut venir à travers la direction de l'Église, ça peut venir spontanément à travers l'Église. Regardez, on a donné une direction pour qu'il y ait de la formation de disciples dans l'Assemblée, mais je vous dirais qu'on a donné une direction pour d'autres choses aussi, puis l'Assemblée est en train de répondre à la formation de disciples. Et moi, je pense qu'il y a une œuvre de l'Esprit dans notre Assemblée où les gens sont en train de prendre à cœur, de former des disciples, et c'est très coûteux, ça demande beaucoup d'énergie, mais l'Assemblée répond bien à ça. Je pense qu'il y a une œuvre de l'Esprit qui est en train de se faire. Là. Par exemple. Alors, lorsque je me rassemble avec les frères, avec les sœurs, est-ce que je viens pour savoir ce que l'Esprit est en train de faire comme œuvre au milieu de nous? Lorsque je me rassemble dans mon petit groupe, est-ce que je m'en vais m'assembler avec un groupe d'individus qui sont remplis de l'Esprit-Saint ou qui ont l'Esprit-Saint avec la notion qu'il y a quelque chose de différent là que lorsque je me rassemble avec ma gang de chums? Dieu pourrait me parler là. Excusez-moi de le dire comme ça, mais Dieu pourrait me parler à travers un âme. D'accord? Mais je suis rassemblé avec des frères et sœurs là, dans un petit groupe. On va prier, on va ouvrir les Écritures, on va partager ensemble. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut faire au milieu de nous, là, actuellement? Je vais prendre un temps à l'écart avec un frère, avec une sœur pour prier. On va prendre un temps ensemble avec Simon, les gars, on fait la formation de disciples, puis on est ensemble. Encore dernièrement, c'était tellement clair que Dieu est en train de toucher nos cœurs puis nous donner un désir de repentance dans une rencontre ensemble. C'est clair, il y avait une œuvre de l'Esprit qui était là. Et si moi, je vois l'œuvre que l'Esprit est en train de faire, puis je dis non. Non, non, tu ne viendras pas me déranger dans ma zone de confort, là, pas ce soir. Mais oui, je pense que ça, c'est une application de ce texte-là. Je suis en train d'éteindre l'œuvre que l'Esprit est en train de faire au milieu de nous. Je peux m'opposer à l'œuvre que l'Esprit est en train de faire au milieu de nous. Je peux casser quelque chose qu'il est en train de faire, là, au lieu d'avancer avec l'œuvre que l'Esprit est en train de faire. Alors, laissez-moi faire une application très, très subjective et venant de la part d'un prédicateur. Moi, je passe toute la semaine à étudier les Écritures, puis à prier, puis à dire, Seigneur, bouleverse-moi, brasse-moi. Quelle est votre attitude lorsque vous venez le dimanche matin écouter la prédication? Est-ce que vous venez en disant, bon, un autre des 52 sermons? Bon, il y en a qui vont nous endormir encore un matin. Non, je sais que vous ne dites pas jusque-là, mais vous comprenez? La même chose avec la louange. Les dirigeants de louange se préparent, vos dirigeants de petits groupes se préparent, ils sont là. Je prie pour les gens dans mon petit groupe lorsqu'ils viennent se rassembler, puis je dis, Seigneur, viens faire une œuvre au milieu de nous ce soir. Oui, Marcel. Amen. 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 Oui, oui, c'est ça. On s'assemble pour grandir dans le Seigneur. Puis laisser le Seigneur parler à nos cœurs. Paul nous exhorte aussi à faire preuve de discernement. Paul nous exhorte, je vais vous donner trois tests pratiques, selon moi, qui peuvent nous aider à avoir du discernement. Mais c'est clair que lorsque le prédicateur, lorsqu'un frère vient me voir, lorsqu'il ouvre les Écritures, puis il me dit, « Hey Michel, l'autre jour tu me partageais ça, puis écoute, je priais pour toi, puis je pense qu'il faut que tu te repentes, Michel. Je pense qu'il faut que tu te repentes. Regarde, c'est ça que tu es en train de vivre. Mais peut-être que je suis à côté de la plaque. Peut-être que je ne suis pas dedans. Peut-être que ce n'est pas ça. » Puis des fois, il y a la volonté de Dieu exprimée qui va dans une situation puis dans une autre. Par exemple, les Écritures disent que c'est très bien de se faire un point d'honneur, de passer par-dessus les fautes. Alors, à quel moment est-ce que je dois passer par-dessus les fautes de quelqu'un? Puis à quel moment je dois aller reprendre quelqu'un? Parce que les Écritures me disent aussi que je dois aller reprendre mon frère. Mais si je passe par-dessus les fautes, je ne vais pas nécessairement reprendre mon frère. Donc, c'est laquelle des deux? Puis là, si moi, je m'en vais voir Michel, puis je dis, Michel, le Seigneur te demande d'aller reprendre le frère. Puis Michel, lui, il côtoie, puis il regarde, puis il réfléchit, puis il prie, puis il dit, non, pas cette fois-ci. C'est pas ça que le Seigneur veut que je fasse. Est-ce que ça se peut? Parce que moi, je ne peux pas aller voir Michel en disant, ainsi parle l'Éternel, Michel. Pourtant, dans la parole de Dieu, j'ai les deux possibilités. Laquelle des deux je suis supposé prendre ici? Les Écritures me disent que je dois être généreux avec mes biens. Ça, c'est clair. Les Écritures me disent aussi que je dois prendre soin de ma famille. Puis là, je me retrouve avec de l'argent, puis je dis, « Ouf, regarde, là, par exemple, pour être très, très concret, on veut avoir Alexandre. On veut avoir Alexandre qui s'en vient, 3 jours semaine, tout ça. D'un autre côté, j'ai des besoins dans ma famille. Il y a quelqu'un dans ma famille. Puis les Écritures me disent que si quelqu'un ne prend pas soin des gens de sa maison, ouf, il est pire qu'un païen. Qu'est-ce que je dois faire? Puis là, j'ai quelqu'un qui vient me voir, puis il me dit, Yannick, écoute, si tu as reçu ça, je pense que c'est pour que tu donnes à l'Église. Là. Examinez toute chose. D'accord? Et je pense que c'est ça que Paul est en train de nous dire ici. De même, nous sommes exhortés à faire preuve de discernement. Et si quelqu'un vient me voir et me dit, Yannick, je pense que le Seigneur me met à cœur de te partager ça. Et vous savez, quand quelqu'un le fait avec moi, je suis très réceptif. Parce que c'est très possible. C'est tout à fait possible. Je prends ça en note dans un petit calepin, dans mon cœur. Puis je dis, c'est bien, Seigneur, je garde ça. On va voir qu'est-ce que tu es en train de dire avec ça. Fait que je vous donne 3 tests qui, je pense, peuvent nous aider à discerner. D'accord? Et je pense que le temps fait la différence aussi dans ces choses-là. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est un conseil qui venait de Dieu ou non? Toute œuvre de l'Esprit de Dieu sera toujours en conformité avec la parole de Dieu. C'est évident. Personne ne peut venir en disant « ainsi parle l'Éternel ». C'est terminé, le canon est complet. Donc, quelqu'un qui va venir me dire quelque chose. Laissez-moi vous donner un exemple vraiment bête puis terrible. Terrible. Okay. Je suis marié. Mon épouse commet l'adultère. Faites-vous en pas, elle n'aurait jamais fait ça de sa vie. Mon épouse commet l'adultère. Selon ma compréhension des Écritures, je pourrais entreprendre un divorce. Selon ma compréhension des Écritures, ce serait très bien aussi de poursuivre le pardon puis la réconciliation. Et combien de fois je me suis assis avec une personne qui est en train de vivre ça dans son couple. Puis cette personne-là, moi, je lui laisse la liberté. Je lui dis, qu'est-ce que Dieu met dans ton cœur de faire? Puis la personne a à cœur de pardonner. Mais elle a des amis, chrétiens et chrétiennes, qui disent, sors de là. Dieu vient de t'ouvrir la porte. Divorce. C'est en conformité avec les Écritures. Est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu, cette affaire-là? Est-ce qu'il y a du pardon dans les conseils de tes amis? Est-ce que ça, c'est en conformité avec les Écritures ou est-ce que c'est de la haine, de l'amertume qui les pousse à faire ça? Est-ce que c'est une pensée charnelle? Si ça vient de Dieu, ça va être en conformité avec la parole de Dieu. D'accord? Définitivement. Et donc, on doit faire attention à ça. Je vais le mentionner tout à l'heure dans la prédication, mais Jésus a dit à Pierre à un certain moment donné, « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, les pensées des hommes. » Et ça m'est arrivé de le penser à plusieurs reprises avec des gens qui venaient me parler. Je ne leur ai pas dit « Arrière de moi, Satan », là. Mais dans mon cœur, j'ai dit « Ça, c'est une pensée charnelle. Rien à voir. Je ne veux rien savoir de ça. » Premier test, toute œuvre de l'Esprit de Dieu sera toujours en conformité avec la parole de Dieu. Deuxième, l'œuvre de l'Esprit de Dieu est juste au niveau christologique. J'ai pas le temps d'aller lire le passage, mais dans Jean, il nous est dit si un esprit dit que Christ n'est pas venu en chair, il vient pas de Dieu. D'accord? Et l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de Jésus-Christ. L'œuvre principale dans le Nouveau Testament, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai bien aimé comment l'auteur le disait dans le livre dont je me sers. La christologie est centrale, la pneumatologie vient le servir. La pneumatologie, c'est la doctrine de l'Esprit. C'est Christ qui est au centre du Nouveau Testament. Et cette espèce d'emphase qui dit, « Ouais, mais là, il faut mettre une emphase sur l'Esprit de Dieu. » Je pense que Michel l'a bien vu avec la prière la semaine dernière. Est-ce qu'on prie l'Esprit? Ben, peut-être. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment rechercher? Non, c'est clair, non. On prie le Père, on prie le Seigneur Jésus, ça c'est clair. Donc la christologie est au centre, et toute idée, c'est d'ailleurs pour répondre à la question de Mme Piché tout à l'heure, avec les Mormons, cette attaque qu'ils vont faire à Christ. On va rejeter ça parce que ça ne va pas respecter Christ. Enfin, toute œuvre de l'Esprit sera conforme avec la morale de la parole de Dieu. Le don de l'Esprit-Saint conduit à une vie sanctifiée. Et lorsque quelqu'un vient vers moi pour m'influencer et il ne me pousse pas à ressembler davantage à Christ, c'est clair que ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. C'est clair que c'est charnel. C'est clair que c'est diabolique. C'est l'œuvre du diable, d'accord? Et donc, ce qui vient de l'Esprit de Dieu va toujours me pousser vers la vertu, vers ressembler à Jésus-Christ. Quelqu'un vient me donner des conseils, quelqu'un vient m'exhorter, et ceci m'amène à être plus fermé, à être plus dur. Ah, celui-là, tu sais, tiens-toi pas avec. Écoute, moi, j'ai pardonné, mais tu sais, je me tiens loin. Je l'haïs pas. Mais est-ce que tu as le droit d'haïr quelqu'un selon le Nouveau Testament? Tu es supposé d'aimer tes ennemis. Fait que celui-là, je ne l'haïs pas. Ben, je veux dire, si quelqu'un me dit, regarde, moi je te conseille, haïs-le pas, là, tu sais, là, mais je veux dire, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, c'est pas compliqué. C'est simple. C'est une pensée super charnelle, à la limite diabolique. Ça ne vient pas de l'Esprit de Christ. Et donc, je viens de discerner. Si ça, c'est une prophétie, pff, elle n'est pas bonne. Je la refuse. Donc, je pense que c'est ça qui est en train de parler ici. L'Esprit-Saint veut faire une belle œuvre au milieu de nous, au milieu de son assemblée. Est-ce qu'on est en train de collaborer avec cette œuvre de l'Esprit? Ou est-ce que par nos attitudes, nos comportements, des fois par un certain mépris, on regarde les gens qui viennent nous parler et on dit « Ah, on sait, il n'est pas parfait. Hein? Elle, là, tu sais. » Et donc, on est en train de refuser d'éteindre quelque chose que l'Esprit-Saint est en train de faire au milieu de nous au lieu de collaborer avec l'œuvre de l'Esprit. On va terminer avec un mot de prière. Seigneur Jésus, nous voulons te ressembler. Nous voulons être à ton image, Seigneur, et nous avons tellement besoin d'être remplis de ton Esprit. Parce qu'il y a ces luttes à l'intérieur de nous, ce combat constant avec la chair. Comment marcherons-nous dans la vérité, Jésus, si nous ne sommes pas remplis de ton Esprit? Si nous ne sommes pas à l'écoute de ce que tu es en train de faire au milieu de nous? Si nous ne nous assemblons pas avec le cœur ouvert, Seigneur, à ce que tu viennes nous bouleverser, nous parler, nous sanctifier? Je te prie, Seigneur Jésus, de nous donner un cœur humble, un cœur ouvert, un cœur qui croit que ton Esprit est présent au milieu de nous et qu'il fait une belle œuvre, afin que tu viennes nous bouleverser, nous sanctifier, nous transformer, Seigneur. Et Seigneur, si dans mes attitudes, mes comportements, j'ai pu mépriser des exhortations que tu as voulu m'apporter, des paroles, Seigneur, que tu as voulu me donner à travers un frère, à travers une sœur, en appliquant les Écritures dans ma vie, pardonne-moi, Seigneur. Je ne voudrais pas m'opposer à ton œuvre au milieu de nous, mais au contraire, je veux collaborer avec toi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. On continue la semaine prochaine.